Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 19h, le club politique d'Europe 1 Soir Week-end avec Gérard Cairo. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Éditorialiste à Europe 1. Bonsoir Bernard Sananès.
Bonsoir.
Président fondateur de l'Institut de sondage ELAB. Nicolas Teneff nous l'a expliqué très très bien tout à l'heure dans le journal de 18h. Les Russes essayent, comme ils peuvent, de se mobiliser contre Poutine en manifestant. Ça a été le cas également à Paris. Le résultat est connu et pourtant on a l'impression que c'est passé dans la normalité. Gérard Carrérou, Poutine va être élu et c'est comme ça.
Oui, il va être élu. Alors, mais peu importe qu'il soit élu à 80% ou à 90%, on est dans un régime totalitaire, hein, un régime où les élections sont quand même pour le moins encadrées et contrôlées. Donc, c'est pas mal qu'il y ait eu aujourd'hui. Alors, ça changera pas sur le fond.
Non.
Mais je trouve que cette petite baigne à l'extérieur, dans un certain nombre de capitales, et cette peut-être baigne, c'est-à-dire cette gifle plus importante à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, bah peut-être, alors je dis pas que ça va changer le personnage, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien, on se fait du bien,
Bernard Sanès.
Si ce n'était pas dramatique, le sondeur que je suis, je vous dirais pas besoin d'estimation pour connaître les résultats ce soir,
oui,
mais évidemment,
oui.
C'est tellement triste. Ce qui est vrai, Gérard Carreau l'a dit, c'est que malgré tout, malgré les difficultés, le courage des oppositions en Russie ou à l'extérieur ont réussi à faire entendre une petite voix discordante et à briser cet unanimisme totalitaire. C'est vraiment une grande marque de courage. Est-ce que ça changera quelque chose? Ça, évidemment, rien n'est moins sûr.
En attendant, Emmanuel Macron reste positionné. Encore ce matin, il l'a dit que tous les scénarios étaient possibles en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, Gérard Carrérou.
Oui, alors là, j'avoue que je ne comprends pas très très bien, malgré les explications nombreuses qu'il nous donne, puisqu'il intervient régulièrement. Maintenant, ça fait la 3e ou 4e fois qu'il intervient pour confirmer ses propos. J'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi du comment. On a eu un Macron au début de la crise, il y a 2 ans, qui était l'homme qui se positionnait comme être une sorte de go-between, d'hommes qui pourraient le jour venu faciliter, facilitateur de paix, si l'on peut dire, en disant surtout attention, n'humiliez pas les Russes, etc. Et puis tout d'un coup, on a vu sortir là quelqu'un qui ressemble davantage à ce qu'on appelait les faucons à l'époque américaine, si vous voulez, de Bush, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment donnent l'impression d'être les va-t-en-guerre. Et c'est donc un véritable changement. Alors, pour moi, il y a 2 explications possibles. Ou bien, il y a des éléments secrets, militaires, mais secrets qu'on ne connaît pas encore, que lui connaît en tant que chef d'État, sur l'évolution du conflit sur le terrain, c'est-à-dire la perspective éventuelle d'une poussée russe et d'un effondrement du camp adverse. Et dans ce cas-là, il sonne le tocsin, et il a raison. Mais sinon, on peut pas s'empêcher d'y voir aussi une sorte de en même temps électoral. On est quand même en démarrage d'élections européennes. Il profite un petit peu de l'absence américaine, qui est d'ailleurs une absence pour cause d'élection, de l'absence du leadership américain, pour essayer d'apparaître comme le chef de guerre de l'Europe et de l'Occident. C'est quand même un rôle très difficile, ça. Et puis, je dirais juste un dernier mot, les piqûres de guêpe, c'est toujours gênant quand on s'attaque à un ours.
C'est une bonne formule, Bernard Sananès.
L'opinion française, en tout cas européenne, est très inquiète par rapport à ce qui se passe. Et donc, est-ce que le président Macron a d'autres éléments, comme vous l'évoquiez, on ne sait pas.
Oui, quand mais on leur demande s'il faut envoyer des troupes au sol.
Alors, ils sont négatifs. Mais par contre, l'idée de savoir si Poutine représente une menace pour la France, ils répondent oui à 6 Français sur 10, qui est un chiffre important. Il y a la crainte que Poutine ne s'arrête pas à l'Ukraine et qu'il attaque un pays de l'OTAN également pour 6 Français sur 10. Pour autant, effectivement, la solution privilégiée par les Français aujourd'hui, avec en l'état des informations qu'ils ont dans leurs mains, c'est de dire il vaut mieux continuer comme on le fait aujourd'hui à soutenir l'Ukraine, c'est-à-dire à soutenir par les sanctions et à soutenir militairement sans envoyer des troupes au sol de près ou de loin. Cette position, elle fait plutôt consensus. Alors pourquoi Il y a des raisons politiques qui font effectivement que les électorats les plus opposés à Emmanuel Macron sont défavorables à cette idée. Il y a des raisons philosophiques avec des personnes qui ont une conviction au contraire. Il y a aussi des raisons économiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Par exemple, l'attribution des 3 milliards d'aide pour de l'armement à l'Ukraine. C'est pas des aides directes, mais des aides indirectes via des aides, le soutien à l'industrie d'armement. Ça, c'est très partagé parce que au même moment, on a annoncé en France, on va en reparler tout à l'heure, on a annoncé en France des économies de 10 milliards d'euros. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une lecture qui est de
10
dire...
milliards, vous rigolez, 10 milliards. Cazeneuve est arrivé à l'Assemblée, elle dit c'est 20 et Moscovici dit c'est 50.
La dernière annonce du ministre d'économie, c'est 10. Après, effectivement, beaucoup de gens ont dit que ça ne suffisait pas. Mais en tout cas,
je pense que Thomas Cazeneuve, qui est au budget, doit en savoir au moins autant que Bruno Le Maire.
Le télescopage des deux annonces sur les 3 milliards d'aides et les 10 milliards de réduction des déficits ont effectivement marqué l'opinion. Donc il y a cette inquiétude, il y a sans doute le constat qu'a voulu partager Emmanuel Macron de la dramatisation des enjeux. Il a parlé de menaces existentielles, il a insisté pour dire que la sécurité de l'Europe ne serait plus garantie si on n'empêchait pas Poutine d'aller plus loin. Est-ce que ces arguments vont fonctionner? C'est trop tôt pour le dire, pour l'instant on n'a pas de réponse depuis son intervention. Alors, encore une fois, vis-à-vis des électorats qui lui sont hostiles, ça ne fera pas bouger grand monde. Par contre, dans ce qu'on appelle l'électorat de second tour, un électorat qui va du centre-droit à la gauche social-démocrate, on verra si ces arguments ont fonctionné, c'est trop tôt pour le dire.
Gérard Carreau.
Oui, sur l'aspect existentiel, je pense que là, on a un peu tendance, dans le camp Macron, à exagérer. On l'a vu au moment de l'engagement de campagne de Mme Hayé, la semaine dernière, c'était vraiment, on avait l'impression que la guerre mondiale était à nos portes et qu'il fallait la faire en plus. Non seulement elle était à nos portes, mais qu'il fallait la faire. Moi, je pense que je pense que si on considère que les Américains sont en train de prendre du large, que ça soit avec Biden, c'est-à-dire prendre du large, le côté isolationniste et se dégager un petit peu de l'Ukraine. Je ne sais pas si ça sera le cas. D'abord, on ne sait pas si ça sera Trump qui dit qu'il fera une sorte de paix rapide, etc. Ou si ce sera Biden qui sera réélu. Mais en tout cas, même si ça arrive, que les Américains dérivent, c'est pas comme ça. Je pense que c'est pas la méthode Macron d'aujourd'hui qui est capable de rassembler derrière lui tous les Européens. Or, la première chose à organiser, c'est d'essayer de faire véritablement un bloc européen. On parle toujours de défense européenne, c'est une rigolade. Les militaires en rient.
La défense européenne, c'est la France, voilà. En fait. Hein. C'est
donc,
la seule qui a la dissuasion.
Plutôt que de faire des grandes déclarations sur la défense européenne, et plutôt que de reprocher une forme de lâcheté à nos amis allemands ou autres, ou d'être trop timorés, etc., il vaudrait peut-être mieux essayer de regrouper.
Ouais. En attendant, Olaf Scholz, il a quand même changé son fusil d'épaule, parce qu'il a dit non, non, non et non le 26 février, lorsqu'il y a eu cette réunion à l'Elysée, où le président, pour la première fois, Macron, avait dit qu'il y avait une éventualité d'envoyer des troupes au sol. Là, dernièrement, avec la réunion du triangle de Weimar à Berlin, ça n'a pas du tout été la même chose. Et puis l'argument selon lequel, et je trouve que c'était bien trouvé par Emmanuel Macron, que Strasbourg et Lviv, ça fait moins de 1500 kilomètres, pardonnez-moi Gérard Carreau, mais si vous ne trouvez pas que la guerre est aux portes de notre pays, 1500 kilomètres, c'est l'île Marseille. Hein.
Vous savez, on disait ça en 81. On disait, si Mitterrand est élu,
les chars russes sur les Champs-Élysées.
Et le pacte de Varsovie. Ouais. À l'époque, souvenez-vous que les troupes du pacte de Varsovie, elles n'étaient pas à 1500 kilomètres. Elles étaient de l'autre côté de Strasbourg, puisque l'Allemagne de l'Est, hein, c'était tout près, là. C'était un trajet
en fait,
de week-end.
C'est un petit peu plus loin, parce qu'il y avait l'Allemagne de l'Ouest entre les deux.
Non, mais je veux dire par là que faut quand même pas. Faut pas toujours essayer d'exagérer quand même. Bien sûr, il y a une menace. Je dis pas qu'il n'y a pas de menace, mais que la menace soit existentielle et prête à surgir, moi personnellement je ne crois pas.
L'argument européen est très important dans la démonstration d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs le fait qu'au début, dans ses premières déclarations, il ait semblé à l'issue de la conférence de Paris agir pas seul, mais en tout cas n'avoir pas aligné tous les partenaires de cette prise de position, a un peu perturbé l'opinion. Pourquoi? Parce que même quand on est contre l'Europe, il y a un seul argument qui fonctionne encore, un argument de bon sens, j'allais dire, c'est on est plus fort à plusieurs. Et donc cet argument était affaibli tout d'un coup par le fait que la position française semblait isolée. Vous avez raison de le dire, Pierre. C'est vrai qu'on voit quand même un peu sur un plan diplomatique, en langage syndical on dirait des bougées, dans langage diplomatique je ne sais pas comment ça se dit, mais on voit quand même quelques avancées qui font qu'Emmanuel Macron a l'air moins seul aujourd'hui et qu'en tout cas il a mis un peu le poids du corps, comme on dit, pour essayer d'aller convaincre. Est-ce que ça suffira pour ne pas apparaître contesté dans son expression ?
S'il y a une vraie menace, Bernard, vous ne croyez pas que, comme l'a d'ailleurs rappelé cette semaine la ministre allemande de la Défense, si vous me donnez le choix entre la protection américaine ou la protection éventuellement de la force de frappe française, bah, les Allemands, il n'y a pas photo.
Et c'est pas seulement les Allemands. Les Allemands ont toujours été très atlantistes.
Oui, c'est pas seulement les Allemands.
Et ils sont obligés de le dire puisque la base américaine de l'OTAN se trouve à Ramstein. Oui, donc, en même temps, il y a une logique dans tout ça. Mais alors, c'est assez amusant ce que vous dites parce que Manuel Bompard, le coordinateur de LFI qui était ce matin l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 et de CNews, disait, mais il y a d'autres manières de faire avancer la diplomatie et notamment de solliciter d'autres intermédiaires que M. Macron, en l'occurrence, et que le Quai d'Orsay, c'est la Turquie ou la Chine. Est-ce que changer son fusil de braquet et prendre d'autres intermédiaires, aussi sulfureux qu'ils peuvent apparaître, c'est une...
C'est pas par hasard qu'il cite des pays qui appartiennent au Sud, à ce grand Sud qui est quand même nous est pas très favorable dans la période. Donc effectivement, c'est pas étonnant.
Mais qui lui est peut-être à certains égards plus cohérent.
Vous savez, la véritable médiation, la véritable médiation, je pense, d'où elle viendra. Ils sont effectivement emberlificotés dans la campagne électorale, mais je pense qu'elle viendra des États-Unis d'Amérique. Et c'est eux qui, à un moment donné, en fonction de l'évolution du front, feront le nécessaire auprès de l'Ukraine pour pousser à une négociation.
Alors, vous avez lu le JDD comme moi ce matin, messieurs. Bruno Le Maire, remplaçons l'État-providence par l'État protecteur. Bon, ça c'est un mantra que le ministre de l'économie adopte depuis quand même quelques temps. J'avais l'impression d'ailleurs qu'il était seul dans une forêt avec un mégaphone à crier déjà il y a un an et demi qu'on n'avait plus d'argent. Et là, vous l'avez tout à l'heure mentionné qu'il manquait 10 milliards. Au moins 20 milliards, dit Thomas Cazenave, 50 milliards, dit, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, pour la période 25-27. François Villeroy de Gallo, qui était mon invité ici dans ce studio vendredi soir, disait qu'on avait une dette abyssale, qu'il fallait absolument revenir dans les clous. On n'a plus d'argent, donc ça, à la limite, c'est une chose que dit Bruno Le Maire ce matin dans le JDD. Cela dit, on prend tous cette interview une potentielle candidature pour 2027, Bernard Salanès.
Oui, Bruno Le Maire, il essaie de faire d'un risque une opportunité. C'est quoi le risque ? Le risque, c'est que c'est très compliqué de passer dans l'opinion du ministre du quoi qu'il en coûte au ministre du « il n'y a plus d'argent ». C'est un grand écart qui, effectivement, est extrêmement, extrêmement complexe à gérer. Et évidemment, la posture du « il n'y a plus d'argent » est évidemment beaucoup plus impopulaire que la posture du « quoi qu'il en coûte ». Donc ça pourrait être une fragilité, une faiblesse, un risque pour le ministre d'économie. Il essaie d'en faire une opportunité pour assumer cette posture, pour se positionner sur le long terme et dire aussi que le rabot, grosso modo, ne suffit pas. Il plaide beaucoup pour une transformation du modèle en creux, en disant finalement que cette transformation n'a pas été faite, que ce soit sur la dépense publique.
C'est les fameuses réformes structurelles qu'on réclame à corps et à cri. Alors, je ne sais pas ce que disent les Français là-dessus quand on leur dit est-ce que vous êtes favorable ou pas à une réforme structurelle, mais en attendant, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on essaye d'en faire une, il y a toujours une bonne raison pour ne pas la faire.
En tout cas, l'urgence de réduire les dépenses publiques, elle est très forte. On a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui considèrent que c'est important, dont plus de 3 sur 10 qui considèrent qu'il y a urgence. Donc, on voit bien que cette prise de conscience, elle est forte, notamment sur les dépenses de l'État et sur certains chapitre. Les Français ne veulent pas réduire toutes les dépenses de manière unilatérale. Il y a par exemple des sujets qui font des points de crispation. C'est les allocations chômage, c'est les allocations familiales. Il y a des points de crispation ou de redéploiement. Et puis il y a une attente que la dépense publique soit plus efficace, qu'il y ait un suivi plus efficace des actions de transformation. Mais ce qui est intéressant chez Bruno Le Maire et dans son initiative d'aujourd'hui, c'est effectivement de montrer qu'en creux, il laisse entendre que toutes les réformes structurelles ou qu'une grande partie des réformes structurelles n'ont pas été faites et donc qu'il peut y avoir un espace pour un candidat réformateur qui suivrait sans désavouer Emmanuel Macron.
Bon, on ne sait pas si ça va lui porter chance dans le sens où il y avait un certain François Fillon qui en 2016 avait un programme, non pas d'austérité, mais enfin de réduction des dépenses également. Ce même François Fillon qui en 2007, souvenez-vous, en septembre 2007, disait « je suis à la tête d'un État en faillite, un État qui n'a pas bouclé un budget à l'équilibre depuis 25 ans ». Comment est-ce que vous avez pris cette interview, Gérard Carrérou ?
Vous avez raison de faire ce rapprochement avec ce qu'était la plateforme de Fillon à l'élection présidentielle de 2017, parce que dans la plateforme de Fillon, ça lui avait été reproché amèrement déjà, tout de suite après la connaissance des choses, c'est qu'il sabrait dans un certain nombre de dépenses sociales. Et là, à ma connaissance, c'est parmi les candidats potentiels pour l'élection présidentielle prochaine, le seul qui porte véritablement le fer sur ce phénomène bien français, on parle d'exception française, qui est l'importance considérable, Bernard, vous avez sûrement le chiffre en tête, du pourcentage des dépenses sociales par rapport au budget de l'État. C'est considérable.
Il me semble que c'est près de la moitié.
Voilà. C'est le seul. Nous sommes le recordman du monde, de l'Europe, de tout ce que vous voulez, pour ces dépenses. Et c'est le seul parmi les candidats de tous les horizons, d'ailleurs.
En tout cas, sur les prélèvements obligatoires, on est à 47%, je crois.
Et c'est le seul. Ouais. Donc, je le trouve courageux ou téméraire.
Oui, courageux ou téméraire.
Alors, il y a une lecture aussi politique, on ne peut pas s'empêcher de faire, évidemment. C'est que l'espace central est à occuper. L'espace central, c'est celui du bloc aujourd'hui macroniste, qui ne sera plus représenté par Emmanuel Macron.
Attendez, il y a quand même un certain Édouard Philippe.
Oui, il y a un certain Édouard Philippe. Il y a un autre certain Gabriel Attal, potentiellement.
Vous y croyez, vous, à Gabriel Attal?
Non, mais en tout cas, ils sont sur la ligne de départ.
C'est comme les trois mousquetaires, ils sont quatre.
Voilà, ils sont quatre. Gérald Darmanin peut y prétendre aussi, Bruno Le Maire aussi. Et en tout cas, pour occuper cet espace central, il y a une clé, c'est d'être bien identifié par le camp macroniste, ce qui est le cas de Bruno Le Maire. Hein, on l'oublie, Bruno Le Maire, c'est à la fois le ministre le plus populaire auprès des Français, et c'est la deuxième personnalité, après Édouard Philippe, vous avez tout à fait raison, auprès des électeurs macronistes. Mais il y a une clé qui est aussi quel sera celui de ses candidats, qui, tout en parlant à l'espace central, parlera le mieux à la droite et à la droite modérée, avec un discours sur la rigueur et l'orthodoxie budgétaire. C'est un discours qui est très important pour cet électorat de droite, qui peut lui aussi privilégier un des candidats de l'espace central.
Bon, je rappelle quand même que jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est une vraie candidature. Lui, il le nie. Hein, quand on lui dit, est-ce que vous pensez, s'agit-il d'un discours de politique générale, d'une annonce de candidature pour l'avenir, d'une main tendue Emmanuel Macron pour les trois prochaines années? Rien de tout cela. Ça n'est juste que mes réflexions sur.
Comme on dit souvent en politique, il pensait toujours, n'en parlait jamais.
Oui, c'est un petit caillou qui ressemble à un gros caillou.
Gérard Carrérou, honnêtement, quand on sait que, et ça, c'est, je pense pas dévoiler un secret immense, mais il y a une vraie amitié entre Édouard Philippe et Bruno Le Maire. S'il y a une candidature, ça rappelle un certain Chirac.
Oui, j'allais vous dire, il y avait des grandes amitiés, comme celles que vous avez rappelées, qui ne résistent pas à la perspective d'une élection présidentielle, s'il faut à un moment donné arbitrer.
Encore une fois, vous aviez raison de rappeler tout à l'heure que pour l'instant, Édouard Philippe est le favori, mais d'abord la course est longue, on est quand même à plusieurs dizaines de kilomètres de l'arrivée, comme on dit, et l'avance dont disposait Édouard Philippe s'étiole un peu, se réduit un peu, parce que c'est long pour Édouard Philippe de faire campagne tout en ne faisant pas campagne, d'affirmer des différences par rapport à Emmanuel Macron sans se mettre à dos l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc cette question de positionnement, de toute façon, tous les successeurs potentiels l'auront. Gabriel Attal, s'il fait un signe de candidature, l'aura également, et Bruno Le Maire aussi. Donc ce sera l'enjeu pour ses héritiers potentiels de ne pas rompre avec l'héritage tout en assumant une part de différence.
Il y a un débat qui a recommencé parce que c'est cyclique et là ça revient sur le tapis avec une loi prochainement. Gérard Carrérou, c'est le débat sur la fin de vie. Vous vouliez parler.
Oui, alors ce débat, la fin de vie, je pense que ça mérite véritablement, ça mérite mieux que ce qu'on est en train d'en faire, c'est-à-dire ça mérite mieux que de faire ça comme par hasard en plein milieu d'une campagne électorale pour les européennes. Et il faut pas qu'on me dise qu'on n'avait pas le temps. Ça fait 10 ans qu'on attend quelque chose dans ce domaine, et en l'occurrence, on avait encore, puisque si on regarde l'agenda parlementaire des deux ans et demi, disons, avant la campagne présidentielle, il y a beaucoup de place dans l'agenda parlementaire. Il y a plus les grandes réformes sont plus ou moins passées, donc il y avait la place. Il y avait donc tout à fait la place de le faire de manière tout à fait en prenant le temps, parce que je crois qu'il faut prendre le temps. Et on entend des réactions intéressantes. Moi, par exemple, j'ai relu à plusieurs reprises, parce que je trouve que c'était la plus complète, celle de Monsieur Leonetti. Leonetti, c'est le député de...
Jean Leonetti.
C'est le médecin député qui est à l'origine, enfin, qui a été un des constructeurs des deux lois, la première et la révision de cette loi. Et Monsieur Leonetti prend le contre-pied exact de la définition par le président de la République. Il prend le contre-pied, il dit que ce n'est pas une affaire de fraternité, contrairement à ce que dit, et il cite, lui, carrément les mots d'euthanasie et de suicide assisté. Parce que là, on nous a un petit peu tourné autour, avec ces... Et je crois effectivement, moi j'ai beaucoup de sympathie par exemple pour Lynn Renault, elle a beaucoup milité pour ce genre de décision. Il faudrait pas que au nom d'une sorte d'émotion et pour faire quelque part plaisir aux gens qui sont sur la ligne de Lynn Renault, qu'on aille à faire un peu n'importe quoi, parce que je crains les conséquences.
Bah le n'importe quoi, il a d'ailleurs un peu commencé. Il y a des campagnes d'ailleurs sur la fin de vie on a vu notamment des affiches qui retracent l'accident de la princesse Diana dans le tunnel de l'Alma, qui font des comparaisons, on va dire à tout le moins hasardeuses, Bernard Sananès.
Oui, c'est un débat compliqué. Pour le coup, je serais pas complètement d'accord cette fois-ci avec Gérard Carrérou. Je pense qu'on a pris quand même du temps. Alors peut-être pas suffisamment de temps pour avoir un retour sur un bilan sur la loi Claeys-Leonetti. Là-dessus, je vous rejoins complètement. Mais c'est vrai que le débat, il y a eu une convention citoyenne qui a été plutôt réussie. On dit beaucoup de mal des conventions citoyennes. Celle-là a été plutôt réussie. On nous dit que le président a beaucoup consulté et on veut bien le croire à cette question. Au-delà de la période électorale, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dans l'opinion sur lequel il y a une forme de consensus. Alors après, qu'il y ait des risques de dérive, de dérapage, qu'il y ait aussi, j'allais dire, une adhérence avec un autre sujet qui inquiète beaucoup les Français, c'est la qualité du système de soins. Ça, effectivement, c'est une vraie préoccupation. Mais est-ce que ce débat pourra être mené au-delà des divergences sereinement et pas comme le dernier grand débat de société qui était autour du PACS, notamment du mariage homosexuel, du mariage pour tous. C'est vrai que, en tout cas, c'est un débat qui mérite mieux que les invectives et les polémiques.
Autre sujet, puisqu'il va être, en tout cas demain, le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit le CRIF pour les 80 ans du CRIF. Tout à l'heure, on a vu que le Premier ministre israélien, j'allais dire contre toute attente, mais on nous a tellement parlé de cette opération militaire de Tsahal sur Rafah, finalement, il rétrograde, en tout cas, il rétropédale en disant que Israël ne lancerait pas d'opération militaire à Rafah dans le sud de la bande de Gaza tant que la population serait enfermé sur place, c'est ce qu'il dit. Nous ferons en réalité le contraire, c'est ce que dit Benjamin Netanyahu devant Olaf Scholz. Il y a eu à nouveau effectivement d'une certaine manière une instrumentalisation de ce conflit entre le Hamas, et je précise bien entre le Hamas et Israël et non pas entre la Palestine et Israël, avec l'occupation de Sciences Po cette semaine qui a mené à nouveau Gérard Carrérou à des commentaires en tout genre.
Oui, alors sur Sciences Po, pas d'autres commentaires que c'est scandaleux ce qui s'est passé, et j'espère bien qu'un jour ou l'autre on mettra un terme à cette agitation d'islamo-gauchisme dans nos facultés. Il y a pas qu'à Sciences Po, malheureusement. Donc ça, c'est une première chose. Mais sur la décision de Netanyahou, je pense qu'il est soumis à une très très forte pression. C'est vrai qu'on peut pas rester indifférent quand les chiffres atteignent, même si c'est les chiffres du Hamas, personne d'autre n'a de chiffres véritablement, mais c'est plus de 30 000 morts, c'est quand même quelque chose. Dans toute la planète, on regarde ces chiffres monter. Donc je pense qu'il a cédé à la pression, et je pense qu'il... C'est la moindre des choses. Et à un moment donné, il faut savoir différer une opération militaire si on peut ouvrir les... Enfin, il y a 1 million de gens, je crois, qui sont concentrés. Donc, ces gens-là, il faut leur donner une soupape de sécurité. Leur dire au moins, allez par là, allez en Égypte, allez... Et leur ouvrir la porte pour éviter que ça... Sinon, c'est pas 30 000, mais on va monter à 50 000 ou au-delà. Donc, je crois qu'il faut savoir ralentir une guerre.
Bernard Sananès.
Non, mais il y a aussi... on l'évoquait tout à l'heure, la pression directe ou indirecte américaine de la campagne de Joe Biden, pour qui évidemment il est clé de ne pas s'aliéner d'autres électorats pour pouvoir l'emporter face à Trump. Donc la pression américaine a dû être très forte sur Netanyahou. Ça, c'est sur le deuxième point que vous évoquiez. Mm-hmm. Sur le premier point, ce qui s'est passé cette semaine renforce encore la poussée de tous les actes antisémites que tout le monde constate et que les statistiques confirment. Et c'est cette poussée des actes antisémites, elle est ressentie dans beaucoup de pays et notamment en France.
Est-ce qu'il y a une fracture aujourd'hui sur cette question aujourd'hui en France?
Oui.
Est-ce que c'est binaire?
Il y a une fracture en tout cas sur le sujet du Proche-Orient. Je ne dirais pas qu'il y a une fracture sur le sujet d'antisémitisme. On l'a vu dans des moments qui ont quand même été marquants, notamment de la grande manifestation. Mais c'est vrai que sur le sujet du conflit entre le Hamas et Israël, il y a des débats qui fracturent la société, notamment chez les jeunes, mais pas seulement. Puis il y a un climat politique aussi, une opposition politique.
Et une montée de l'antisémitisme avec les Juifs de France qui le rappellent. Et on a vu le cas également en Angleterre où une peur, une crainte maintenant s'installe dans la communauté juive.
On le voit. Encore une fois, le lien est fait et dans bien des cas, il a raison d'être fait. Ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est évidemment plutôt l'expression d'une forme d'antisionisme que l'expression d'une forme antisémitique.
Merci beaucoup pour ce club politique du dimanche soir. Merci à vous deux, Bernard Sananès de l'Institut Elabe et Gérard Carrérou.